Le festival lieu en scène, c'est du 11 au 13 avril au Casino. Dans un court instant, Roméal Mofra nous parlera de son spectacle Romu. Mais sans plus attendre, c'est Antoine Demort qui gratte le vernis.
C'est ça la manipulation, hein. C'est qu'une question d'angle, comme dans les médias. Je veux dire, on a tous déjà vu à la télévision ces images d'émeutes, de violences, parfois même quand il ne se passe rien.
Dans le cadre du festival Lieu en scène sur l'Île-Dieu, Antoine Demort présente son spectacle « Antoine Demort gratte le vernis » le jeudi 11 avril à 20h30 au Casino. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Ce spectacle a été créé en 2015. Quel a été l'élément déclencheur ?
Avant, j'avais un spectacle un petit peu plus sur l'actu. Et je me suis aperçu que, en fait, déjà l'actu me rendait de plus en plus malade. Et qu'il fallait s'en distancer un peu, et je me suis dit qu'à travers ce spectacle, en fait, il y avait la possibilité de remettre un peu de distance, de se documenter, et puis je sortais d'une expérience en journalisme aussi, où j'avais vu un peu le traitement de l'actu sur le fait divers, etc. Et du coup, tout ça un peu mélangé a fait que j'ai écrit ce spectacle, où j'ai remis un petit peu plus de distance, plus de base théorique, j'ai relu des bouquins, ça fait pas de mal de temps en temps, et donc du coup on a un spectacle, un one man qui montre un petit peu la façon dont on peut manipuler l'image.
Le traitement de l'actu, en t'écoutant parler, ça ne te convient pas ?
Disons que, ouais, à ce moment-là, et même maintenant, humainement, de plus en plus, je trouve que c'est... On est sur un truc anxiogène et c'est de moins en moins ce que moi je recherche.
C'est plutôt, à ton avis, plutôt racoleur, plutôt que d'info, non ?
Non, ça, ce serait vraiment faire des raccourcis aussi. Il y a des bonnes façons de traiter l'info. Il en existe, simplement pour ça, ça demande de l'investigation, ça demande du coup des fonds. Et puis, ça demande surtout à sortir d'un processus de l'immédiateté de l'information. Je tweete, j'ai un truc à dire, je le dis. Voilà, c'est pas pour rien que, en fait, c'est un métier. Mais il y a encore des gens qui se battent pour le faire correctement. Donc, moi, j'essaie de m'orienter petit à petit vers ces sources-là, ou j'essaie tout simplement de me couper de l'actu de temps en temps. Et c'est vraiment pas un mal. Et je crois qu'aussi, à l'Île-Dieu, il y a tout ce qu'il faut, quoi, pour faire ça. Des beaux paysages, il y a de quoi mettre le cerveau en pause de temps en temps.
Tu te prends notamment pour un reporter, un journaliste de BFM TV.
C'est un des sketchs effectivement qui a été inspiré un peu du traitement de l'information qu'il y avait eu à l'hypercacher, enfin pendant cette semaine un peu terrible des attentats de Charlie Hebdo, où les mecs, sans aucun filtre, traitaient de l'info à chaud comme ça, en donnant des informations qui pouvaient être absolument néfastes pour les otages, et donc du coup effectivement est né un sketch de ça.
Tu parles également du djihadisme.
Oui, après sous un prisme qui est complètement comique, et puis surtout qui est très éloigné d'un commentaire de la doctrine ou quoi que ce soit. Moi je pars d'une anecdote qui est arrivée à mon frère, qui en gros est ornithologue au Moyen-Orient. Pour de vrai, il pose des petits GPS sur des oiseaux qui sont en voie de disparition. Et du coup, une fois c'est arrivé qu'un oiseau a été abattu parce qu'il était accusé de terrorisme. Parce qu'on avait consulté, les gars en fait avaient un peu confondu la bague qui était un GPS avec un détonateur de bombe. Donc voilà, je pars de ce truc qui est très anecdotique et je le monte en épingle et ça devient complètement drôle et aberrant en même temps, quoi.
Tu pars plutôt sur des situations réelles.
Effectivement, la base est réelle. Il y a d'autres fois aussi où c'est issu de mes lectures, issu de mon imagination. Je brasse un peu le flou au milieu de tout ça, mais il y a bien souvent où effectivement ça va avoir un parfum de réel. Tout à fait.
Quelle partie du spectacle as-tu complètement inventé ?
Dur à répondre comme ça. Je dirais que la partie, si le mec il y a une base réelle là-dedans, mais je dirais que l'agent de tourisme pour migrants, en gros le mec qui vend vraiment des places dans un Zodiac, ça c'est une invention pleine et entière, mais elle part quand même d'un fait réel qui était que je m'étais documenté sur combien valait une traversée, sur qu'est-ce qu'était la marchandisation, tout ça, de cette humanité à la dérive. Et du coup, à l'issue de ça, j'avais écrit ce sketch où je prenais le truc à rebours, hein, où le mec trouvait plein d'avantages à monter sur son Zodiac, il faisait des options assises, options pont supérieur, où en fait t'es sur une palette en bois, donc ça flotte, t'as plus de chances de survivre.
C'est assez noir tout de même comme humour.
Ah ouais, bah oui. Après, moi, je me définis pas comme un humour noir non plus, parce qu'en ce moment, c'est un peu la mode de dire qu'on est tous cyniques, tous noirs. Non, c'est un humour qui est un petit peu poil à gratter, qui peut par moments être un peu âpre, un peu cynique, mais c'est un spectacle qui est complètement contrebalancé entre des moments où il y a des trucs un peu durs à digérer. Il y a d'autres émotions même. Moi, je m'autorise vraiment à pas que rire dans le spectacle. Donc il y a des moments où il y a d'autres émotions, puis ensuite, on revient sur des rires, de la franche marade. Et j'aime bien cet aller-retour-là. C'est un peu comme ça qu'est conçu le spectacle.
C'est pour ça que le spectacle s'appelle Antoine de Mort, gratte le vernis.
Gratte le vernis, et voilà, toujours ce rapport à l'image d'aller voir un petit peu derrière ce qui brille.
C'est toi qui as écrit et composé toutes les scènes de ce spectacle ? Simple ou pas simple ?
Ouf, pas simple, parce que déjà, moi, je suis un peu un angoissé. Et puis, bah, comme tout auteur, en fait, on a ces moments où les choses vont venir au moment où on les attend le moins, hein, sous la douche, en faisant du vélo, je ne sais pas quoi, le moindre truc qu'on croise, on se dit, putain, ça y est, on tient une idée. Et puis, il y a d'autres moments où il faudra s'y mettre, où clairement, on est devant la feuille blanche, et puis elle ne se remplit pas. Ouais, c'est jamais simple, tout process créatif, parce qu'ensuite, une fois qu'on a écrit, c'est une chose, mais ensuite, il faut le mettre à l'épreuve du public, le mettre à l'épreuve de soi-même aussi. Donc ça demande beaucoup de travail, mais comme tout process artistique.
Tu testes tes sketchs et ton spectacle sur tes parents, par exemple, ou pas du tout? Ou sur tes amis?
Non, ça fait un peu, toujours un peu casse-gueule. Moi, je préfère au contraire avoir une salle qui est vraiment dénouée de tout affect. Moi, c'est vraiment mes salles préférées. C'est quand vraiment je sais qu'il n'y a vraiment personne que je connais dedans. Ni amis, ni famille. Et bon, sur les premières d'un spectacle, c'est jamais facile, puisque mes parents aiment bien venir aux premières, les amis aussi pour soutenir, mais j'ai besoin de d'autres tests petit à petit avec des gens qui me sont plus neutres pour savoir un peu ce que vaut le spectacle, sinon ce serait biaiser la chose.
Et le retour du public, il y en a qui sortent choqués de ton spectacle ou ils prennent plutôt ça à la rigolade?
Non, il y en aura toujours. Ouais. De toute façon, à partir du moment où on ne fait pas dans le consensualisme, j'aurais fait un sketch sur le montage d'un meuble Ikea. Effectivement, là, on pouvait réunir un petit peu tout le monde, toutes les franges, sauf ceux qui n'achètent pas de meuble Ikea, donc qui vivent dans le 16e arrondissement de Paris, mais ce n'est pas la question. mais sinon, ouais, bien sûr, de par les sujets évoqués, de par le fait qu'on suspecte parfois de la manipulation dans l'image, effectivement, on ne va pas convenir à tout le monde, mais. Mais après, voilà, il faut pas oublier que ça reste de l'humour, que ça reste un personnage que je joue sur scène. Et voilà, si les gens le prennent mal, bah, tant pis, c'est peut-être qu'ils étaient pas faits pour ce spectacle ou qu'ils sont peut-être pas faits pour ce type d'humour-là, mais c'est pas grave.
Tu proposes également des ateliers d'improvisation avec des jeunes en décrochage scolaire.
Oui, c'est une des choses que j'ai faites. Alors, c'est pas du tout la majorité de mon actualité, de mon travail, mais c'est une expérience qui m'a été proposée l'an dernier. Deux expériences. La première, c'était de faire un spectacle dans le cadre de Culture à l'hôpital. Donc, je suis allé jouer pour des adolescents. Un spectacle qui était sur mesure pour eux. Et puis, la deuxième, c'est effectivement d'avoir mené un atelier avec des jeunes qui sont en gros décrochage scolaire et puis en perte de confiance plus. Et c'était une expérience humaine qui a été assez folle. Donc, j'espère qu'un jour, ça se reproduira. Mais pour ça, il faut il faut continuer à travailler en tant que comédien pour pouvoir, quand on sera au contact de ces publics-là, pouvoir les enrichir, leur apporter des trucs. Mais c'est vrai que c'est, voilà, dès qu'on remet de l'humain, de toute façon, il se passe toujours des trucs un peu formidables.
Ces ateliers d'improvisation, ça s'est bien passé avec les jeunes, ils étaient contents. Et ils ont retrouvé confiance en eux, d'ailleurs?
Alors, on a fait un atelier unique. Mm-hmm. Après, c'est toujours la même question, à savoir de trouver des financements pour pérenniser ça, etc. Mais sur l'expérience unique qu'on a eue, sur ces 2 heures qu'on a eues, j'ai démarré avec des jeunes qui étaient parfois un petit peu hostiles à l'idée de participer. C'est normal. Enfin, je veux dire, il y a un stress, il y a une forme de méfiance aussi vis-à-vis de cette personne, notre autorité qu'on connaît pas, qui vient proposer un truc. Donc, il a fallu un petit moment
d'adaptation,
pour s'apprivoiser en quelque sorte. Et après, il y a eu une vraie magie qui a opéré avec des jeunes, certains qui étaient très, très, très dans le recul au début et qui se sont montés sur scène à la fin d'eux-mêmes, proposer des trucs. Puis après, c'est la magie de l'impro, parce que l'impro, il n'y a pas d'erreur possible, en fait. Il y a que ce qu'on propose et on peut pas faire d'erreur parce qu'on accepte de lâcher prise et de balancer une histoire. Et cette histoire, bah, tant que le public y croit et tant que soi-même on y croit, c'est forcément bon après. Donc voilà, il y a eu des petits moments de grâce dans cet atelier. Ouais.
Antoine Demort gratte le vernis, c'est à découvrir le jeudi 11 avril à 20h30 sur l'île-Dieu. Tu le connais déjà l'île-Dieu ou pas du tout?
Je suis venu une fois. Ouais. Je suis venu une fois parce qu'à l'époque, j'étais, avant de faire ce travail de comédien, en fait, j'étais en formation d'éducateur à l'IRTS de Bordeaux, où j'ai rencontré un insulaire. Et du coup, en fait, j'ai eu cette possibilité de devenir encadrer des séjours de vacances monoparentaux. Avec du coup des familles qui étaient en difficulté. Je suis resté plus d'une dizaine de jours dans une structure à accueillir ces familles-là.
À Caval, quoi, non?
Et voilà, donc j'ai eu, c'était ma première expérience et unique expérience, mais c'était en avril sur une île qui est magnifique avec des gens qui à ce moment-là avaient un peu besoin de retrouver du souffle. Mmh. Donc c'était là aussi assez fort, ouais. Je fais une petite dédicace à mon doudou, à mon Jean-Marie, hein, que je suis sûr que je vais croiser au mois d'avril.
Antoine Demort, le spectacle bouge avec le temps ou c'est plutôt une grande partie fixe? Par exemple, est-ce que en ce moment tu parles des Gilets jaunes?
Non,
pas du tout.
Le spectacle, en fait, moi, justement, ça c'était le spectacle d'avant où je bougeais beaucoup avec l'actu. Mm-hmm. Et non, ce spectacle-là est fixe depuis que j'ai en tout cas trouvé. La rythmique que je souhaitais lui donner et le fond que je souhaitais lui donner, ce spectacle, ouais, il a toujours un accent très actuel. On s'écarte pas de temps en temps. Je me laisse la possibilité de temps en temps de mettre un petit clin d'œil, petit quelque chose, mais vraiment le spectacle ne bouge pas et pourtant pareil continue de paraître actuel. Ouais.
On te retrouve sur l'île-Dieu le jeudi 11 avril à 20h30 au Casino. Merci Antoine, à très bientôt.
Merci, à bientôt. Hein, j'ai hâte.
L'outarde, ce pauvre oiseau, quand elle s'est retrouvée nez à nez avec les militaires. Get on the floor! Get on the floor, fucking bird! Put your wings up! Pour les non-anglicistes, les ailes en l'air.
Vous l'avez compris, Antoine Demort gratte le vernis toujours ce jeudi 11 avril. Romuald Mofra sera lui aussi présent.
Là, il y a des machos, là. Là, il y en a partout. Sauf qu'on est quand même bien obligé d'admettre que les guitares et les femmes, c'est un petit peu pareil. Hein. Je finis. C'est vrai qu'il y a une vraie réflexion derrière tout ça. Non, les gars, écoutez-moi. Les guitares et les femmes, c'est un petit peu pareil. Pourquoi? Ben, parce qu'on est quand même bien obligé d'admettre qu'on passe beaucoup plus de temps à essayer de comprendre comment ça fonctionne.
Dans le cadre du festival Lieu en scène sur l'île-Dieu, le Nantais Romuald Mofra présente son spectacle Romu le jeudi 11 avril à 20h30 au Casino. Bonjour Romuald.
Bonjour Roland, ça va?
Ça va et toi, en pleine forme?
Très bien, ouais.
Pour créer ce spectacle Romu, quel était l'élément déclencheur?
Ah, le spectacle, c'est une histoire, hein, de toute façon. Hein, c'est un petit peu un enchaînement de trucs. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour il y a quoi maintenant, peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça. Tu sais, au début, il n'y avait même pas la prétention de faire un spectacle. Hein. Moi, je viens d'ailleurs. Avant, j'étais commercial, je vendais du matériel médical et puis voilà, tu sais, un jour par semaine, tu prends des cours de café théâtre et puis en fait, petit à petit, ça devient de plus en plus sérieux parce que en fait, en un an, ça a donné un petit peu une succession de sketchs qui sont devenus un premier spectacle. Tu sais, au début, sans trop de conviction, en fait, juste la volonté de rigoler. Et puis, effectivement, après, j'ai pas mal puisé un petit peu dans ma vie d'avant, la vie un peu en entreprise aussi, tu vois. Puis même encore avant, parce qu'avant la vie en entreprise, il y avait même l'école de commerce. Et avant, il y avait le lycée. Donc, tout ce petit parcours-là... si tu veux, m'a aidé à construire une succession de petits stand-up logiques où je raconte un petit peu tout ça, donc c'est pour ça qu'il y a une dimension un peu sociale dans le spectacle. Et puis c'est comme ça que ça a pris forme. Maintenant, on est depuis un an là sur une deuxième formule qui a plus du tout rien à voir finalement avec ce que je faisais au début, quoi. Et c'est comme ça que cette version-là du spectacle a vu le jour.
Tu mêles one man show et musique également.
Bah un petit peu, ouais, parce que d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est comme ça que j'avais rencontré une première fois Nico qui nous reçoit dans ce festival-là. À l'époque, quand j'étais, tu sais, au lycée, là, j'avais mon petit groupe de ska à l'époque, rock ska, reggae, tu vois, ce genre de trucs-là. Moi, j'étais là-dedans. J'étais chanteur dans un groupe comme ça. Et c'est peut-être ça aussi hein, qui m'a donné un petit peu, tu sais pas, l'envie ou le goût de monter sur scène, parce que mine de rien, avec ce groupe-là, à l'époque, là, le groupe de lycée, il a eu sa petite carrière locale, finalement, j'ai dû faire une bonne centaine de concerts, et puis c'est ce fameux Nico qui avait enregistré les premiers albums, tu te rends compte ? J'avais 20 ans, voilà, c'était il y a quelques années, j'ai passé ma trentaine depuis un petit moment, et puis voilà... c'est comme ça que ça s'est passé. Alors il y a pas véritablement mon one man show, c'est pas un concert hein, mais il y a une guitare et puis c'est un peu la deuxième moitié du spectacle hein. toute la première demi-heure c'est un stand-up un peu social qui retrace un peu mon parcours et puis la deuxième partie du spectacle je sors une guitare et c'est vrai que ça ouvre un peu parce que le fait d'avoir une guitare, de faire des ruptures, de raconter des conneries avec et ben en fait je sais pas, tu vois, je vais le dire assez simplement, mais j'ai l'impression que le personnage prend encore une autre dimension, en gros, quoi. Voilà.
Tu joues beaucoup avec le public ? T'as beaucoup d'interactions avec ce public ?
De manière générale, de toute façon, quand t'es sur scène et que tu fais ce type de discipline, clairement, t'es obligé d'être à l'écoute, hein, parce que des fois, tu sais, une vanne, elle marche pas de la même manière que le soir précédent, donc faut sans arrêt quand même à l'écoute. Pour être bien sûr que ce que tu racontes quand même ça percute. Alors effectivement ça joue un petit peu avec le public. Après faut pas non plus trop, enfin en tout cas il faut pas dépendre que de ça, enfin de mon point de vue quoi. Voilà, c'est quand tu montes sur scène pour faire du stand-up, du one man show, voilà, c'est bien que le texte fonctionne quand même de lui-même. Sinon,
oui.
C'est emmerdant. Le soir où le public réagit pas, c'est dans la merde.
C'est pas un spectacle d'improvisation.
Non, pas du tout. Il y a toujours des petites impros qui donnent parfois lieu à des petites fulgurances parce que ben voilà, des fois tu poses 2-3 questions, tu parles avec les gens du premier rang, puis des fois tu tombes sur des perles, tu vois. Mais non, c'est pas de l'impro, non. En général, au contraire, c'est mieux quand c'est bien écrit et bien rodé.
T'as fait tes armes au café théâtre de Nantes.
Oui, effectivement, j'ai commencé là-bas, moi. Mais en fait, c'est là-bas que j'avais pris mes premiers cours de café-théâtre, il y a, 5-6 ans. Et puis, moi, j'ai beaucoup joué là-bas, quand j'habitais à Nantes, hein. C'est vrai que j'ai eu la chance de débuter dans ce lieu un peu magique, maintenant, parce que c'est très, très joli. Et puis, ça te prépare bien à ce qui se passe un peu après, parce que c'est une petite salle, t'es en conditions réelles. Enfin, nous, il y a une petite et une grande salle. Mais c'est vrai que c'est chouette. Tu commences à Nantes, t'es un peu à la maison, et puis après tu fais un peu la même chose dans les autres villes. Voilà, maintenant j'habite à Paris depuis un an et demi.
T'as vu une grande différence entre Nantes et Paris en termes de ville et en termes de personnes également?
Peut-être qu'avant j'avais une idée un petit peu biaisée. Tu sais, ça dépend surtout des gens qui se trouvent dans la salle, en fait.
Hein. Ouais.
Des fois, tu le sens bien, des fois, tu le sens pas. Ça dépend des petites salles, grandes salles, tout, c'est pareil. Ça te met aussi quelque chose qui... Ben ouais, c'est des petits curseurs qui bougent un petit peu. Donc, on nous pose souvent cette question. Est-ce que le public est différent à Paris, à Bordeaux hein? Franchement, je sais toujours pas comment faire une réponse correcte parce que ça dépend tellement des soirs. On peut des fois avoir le cliché d'une salle parisienne un peu froide, tu sais.
Oui, qui bouge pas, ouais, qui est complètement stoïque.
Ouais, avec des Parisiens, tu sais, le cliché du Parisien qui va te regarder, qui va te juger. Et malheureusement, ce cliché-là, tu peux l'avoir dans les autres villes.
Comme quoi, il n'y a pas de règles.
Oui, et par chance, tu peux avoir une salle de Parisiens complètement chaleureux qui te mettent un feu dans la salle. Voilà, j'ai joué assez de fois, j'ai l'impression, pour avoir la chance de vivre tous ces cas de figure. Donc, je ne sais vraiment pas comment faire une réponse. Est-ce qu'on peut stigmatiser, noter, juger, évaluer un public en fonction de la ville? Franchement, j'en sais rien, tu me poses une colle. Voilà, ce qu'il faut arriver, c'est, enfin, en tout cas, je pense, plus l'humoriste ou plus la personne sur scène arrive, arrive déterminée, convaincue de sa connerie, bah plus il arrivera à la faire passer. Hein. Je sais pas, j'en suis arrivé à me dire ça, moi, en tout cas, voilà.
Simple ou compliqué de mettre en texte et en forme ce spectacle ?
C'est toujours compliqué parce que le processus d'écriture, c'est assez simple d'avoir des idées, mais c'est un peu plus dur d'avoir des idées drôles, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est toujours compliqué. Il y a des phases de mon spectacle, je sais pas, qui me sont venues tout de suite comme ça et. Et tu trouves un petit bout de sketch de 2-3 minutes en un après-midi, et puis des fois, sur une idée qui est couchée sur le papier, tu sais que tu as envie de parler de ça, mais tu n'arrives pas à trouver les vannes pour rendre le truc drôle, et ça fait 2 mois que c'est sur le cahier, quoi, tu vois. Donc, c'est malheureusement, c'est aussi simple que c'est compliqué, voilà, ou l'inverse, il faut indéniablement passer du temps dessus, hein. Fait que les gens te voient sur scène, ils disent putain, ça a l'air facile. Si ils se sont dit ça, c'est que c'est gagné, tu vois. C'est que t'as bien réussi ton tour de chant, comme dirait Aznavour, tu vois. Mais c'est que t'as bien réussi ton numéro, tu vois. Ça dépend. Franchement, des fois, ça peut mettre du temps.
Avant de monter sur scène, est-ce que tu testes tes sketchs avec ta famille, tes amis ou tes parents?
Principalement les copains, ouais. Bien sûr. Maintenant, depuis, ça commence à faire quelques petites années que je fais ça. Alors, certainement, ceux qui m'entourent font ce métier-là aussi. Donc, je peux tester sur eux. Puis j'ai la chance, j'ai un pote sur qui je peux tester. C'est mieux, hein, c'est mieux d'essayer. Mais des fois, tu l'as en toi, tu sais pas. Des fois, t'as trouvé une connerie dans la journée.
T'es fier de toi. Tu te dis,
tu le fais le soir même et ça marche. Des fois, tu te dis, ah, celle-là, attends, je testerai ça dans le spectacle. Et dès la première phrase, le public te dit non. Tu te dis, bon, je vais reprendre mon autre sketch qui marchait. Donc, c'est bien de tester sur, c'est bien de tester sur quelqu'un. Que ce soit ta copine, ton pote. Déjà, ça donne une tendance, au moins. Tu sais que si ça le fait pas du tout marrer, tu peux aller au-devant de grands dangers sur scène.
Sur scène, tu t'es déjà pris des fours ? Personne rigole, c'est le vide sidéral.
Malheureusement, ça c'est des choses qui arrivent à tout le monde. D'ailleurs, c'est marrant. D'ailleurs, il faut en parler en interview. Ça, d'ailleurs, tous les stand-upers parisiens là, et puis pas que, hein, mais il y a une mode un peu, c'est une bonne mode d'ailleurs. Ils font tous des podcasts sur leur page et tout, et ils se livrent d'une manière différente et beaucoup plus intime pendant une heure avec qui veut bien l'entendre d'ailleurs. Et je trouve que de plus en plus, au contraire, quand t'écoutes ces podcasts-là, tu vois l'humilité des gars, hein, parce que t'as beau les entendre cartonner dans telle ou telle salle, ils racontent tous leur bite, et clairement, tout le monde en a pris, et pas qu'au début, et pour plein de raisons. Hein. Malheureusement, au début, quand le texte est trop frais, clairement, tu peux glisser, et puis pas rencontrer ton public, et puis du coup, tu peux avoir la petite flip qui s'installe, et du coup, tu racontes pas ton histoire, et si tu la racontes mal, en général, elle prend mal. Puis, des fois, même un sketch qui a marché, ou des vannes qui constituent un petit stand-up, des vannes fortes, qu'on marchait 10 fois, qu'on marchait 100 fois, qu'on marchait 200 fois, si tu joues dans une salle où les gens sont pas prédisposés à écouter, des fois ça peut être compliqué, hein. Je pense au fameux comité d'entreprise, tu vois, c'est ça, nous les humoristes, parce que disons-le aux gens, c'est bien payé, donc on le fait pour gagner notre vie. Mais quand tu te retrouves devant 80 personnes qui sont en train de manger un steak, comme disait un pote à moi, t'es pas plus drôle qu'un steak, hein. Donc c'est pas évident de capter leur attention, tu vois. Mais après, ça, c'est des bides où t'en rigoles après, quoi. Quand les gens étaient pas venus là pour t'écouter, c'est vrai que le meilleur sketch du monde peut bider, quoi. Ce qui est dur, c'est le bide de l'humoriste, tu sais, quand le gars qui est passé avant lui a cartonné la salle, et puis toi, tu passes derrière, et puis
Et tu prends un four, ouais, là, tu fais...
Ah, on le sait que ça a moins marché, on le sait. Et ben, quand c'est comme ça, on rentre chez soi, on pleure et on travaille, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais tu vois, faut essayer essayer d'avoir assez, mine de rien, on est humoriste, alors faut essayer d'avoir assez d'humour, même si c'est pas facile, même dans les coups durs, en fait, quoi. Mmh. Sinon, tu pars en dépression, quoi. c'est ça, hein. Moi, je, ouais, c'est, voilà, il faut essayer de regarder devant.
Faut être plutôt zen. À première vue.
Travailler, ouais, voilà. Essayer d'être bien entouré aussi, d'avoir, voilà, si t'as une copine ou un copain, ou des parents, ou des machins, faut essayer de faire en sorte un peu d'avoir un noyau qui croit un petit peu en toi, parce que, ouais, des fois, mais ça, c'est tous les métiers artistiques, hein, c'est pas, je pense que c'est pas, bon, l'humour où c'est dur, c'est quand tu prends un bide, effectivement, des fois, je dis ça, par exemple, tu fais une salle de 300 personnes en première partie de quelqu'un de plus connu ou alors dans un festival. C'est vrai que 300 personnes qui rigolent, ça s'entend. 300 personnes qui rigolent pas, ça s'entend aussi. Donc c'est vrai que contrairement à la musique ou je sais pas quel type d'art te citer, mais quand ça marche pas, l'humour, la réponse est directe. C'est vrai que voilà. Donc c'est là où faut peut-être être un petit peu fort, quoi.
T'as toujours un stress de monter sur scène maintenant ou maintenant c'est plutôt à la cool?
Écoute, moi j'ai toujours le trac, clairement. Ouais. après, il y a des rendez-vous plus stressants que d'autres.
Ça dépend des salles.
Bah ouais, ça dépend des salles et puis je sais pas, de manière assez logique et puis pour échanger avec les autres copains qui font ce métier, même plus connus que moi ou comme moi ou tout débutant. Moi je suis un peu entre les deux, tu vois. J'ai pas débuté la semaine dernière, mais je suis encore quand même loin d'être très connu, tu vois. et puis on est beaucoup, tu vois, comme ça, à se balader un peu partout et avoir la chance de vivre de ce métier. Mais même si on t'es un peu rodé sur des trucs, t'as toujours le trac. Et puis je pense que l'enjeu que t'y mets, va conditionner le trac que tu ressens. Un exemple tout bête, si c'est ta première captation télé ou un truc comme ça, où tu te dis là pendant ces 5 minutes-là pourront changer ma vie, bah t'as plus le trac que si tu vas dans la salle où tu joues tous les samedis et puis que tu sais comment elle rigole, tu sais le son qu'il y a, tu connais tes placements sur scène, t'as pas d'enjeu, on va dire, médiatique, donc pas de truc qui te met une surpression, bah oui, forcément t'es plus détendu, tu vois. Je sais pas si tu vois, ça te paraît logique un petit peu, tu vois.
Ça me paraît complètement logique même d'ailleurs.
Tu vois, c'est ça, hein, c'est...
Quand il y a moins d'enjeux, on est plus zen.
Bah ouais, c'est ça. Et pourtant, justement, un petit peu le tour de chant, le tour de magie de l'humoriste, bah, pour qu'il soit drôle, faut qu'il soit détendu tout le temps. Parce que dès lors qu'il est un petit peu stressé, ou trop stressé, bah, ça dénature un petit peu la livraison du texte, quoi.
Ça se voit et ça s'entend, de toute façon.
Et puis, si ça se voit, ouais, le public le voit, quoi. Tu sais ce qu'on dit entre humoristes, enfin, je sais plus d'où je tiens cette expression, mais non, tu l'avais pas inventé avec un pote. Quand on était en cours de théâtre, on stressait, c'était nos premières scènes, on flippait, parce que c'est quand même très stressant de pas entendre de rire. Et tu vois, à un moment, je sais plus, on est arrivé à cette conclusion, on disait, tu sais, le public, c'est comme un berger allemand, il sent la peur.
Ben voilà.
Il sent la peur, le public. Donc si tu flippes, c'est pas bon pour toi. Mais bon, c'est paradoxal, parce qu'il faut s'en foutre pour se pas stresser, mais comme tu veux bien faire avec les gens, tu ne peux pas en avoir rien à foutre. Tu vois, ça serait leur manquer de respect aussi. Donc je crois que c'est le temps et le rodage qui fait que t'arrives à être naturel de plus en plus sur scène. Je sais pas, c'est mon interprétation, c'est ma lecture du truc en tout cas.
Et on te retrouve sur l'Île-Dieu dans le cadre de Yeux en scène. Ça sera le jeudi 11 avril à 20h30 au Casino. Merci Romuald, dit Romu.
Merci à toi. Tu peux m'appeler Romu, ouais. En fait,
ton spectacle s'appelle comme ça.
Voilà, on a appelé le spectacle Romu parce que c'est plus facile à retenir. Je vous dis au 11 avril à tous en tout cas.
Eh bien, parce que là, du coup, il faut le vendre. Il faut un tel, un mec capable de vendre n'importe quoi. De vendre n'importe quoi, des frigos, un escro, hein, des parasols dans le Pas-de-Calais, des baskets sur un cul de patte, hein. Des lunettes croisées à Jupiter Montagnier, hein. Et des pilules du lendemain, à Christine Boutin.
Autre artiste durant ce festival Lieu en scène sur l'Île-Dieu, Maxime Gasteuil et Dedo. Ils seront avec nous demain dans Je vous dis pas.